Le futur dépend-il de nos actions et de nos choix? Quel sera notre héritage? Quel impact avons-nous sur ce qui nous reste à vivre? Comment souhaitons-nous construire un environnement sain pour s'inscrire dans un bien ensemble? Bienvenue dans Aujourd'hui Demain, une invitation à la réflexion à travers les histoires de ceux qui nous entourent. Le Red Bulletin. Dans ce deuxième épisode, nous partons à la rencontre de Laure Babin, une jeune entrepreneuse qui a lancé sa marque de baskets recyclées fabriquée à partir de marc de raisin.
Donc, je m'appelle Laure, j'ai 24 ans et je suis la fondatrice de Zeta. Zeta, c'est une marque de baskets recyclées qui est basée à Bordeaux et donc qui est fabriquée à partir uniquement de matières revalorisées, donc issues de déchets. Donc, on va retrouver notamment des déchets viticoles, du plastique recyclé, du liège recyclé, uniquement des déchets en fin de vie. Et voilà, c'est une marque que j'ai lancée l'année dernière, en septembre 2020, donc il y a un petit peu moins d'un an. J'ai fait des études en management. J'ai toujours ciblé mes stages dans l'industrie de la mode et de la chaussure parce que ça me passionne depuis que je suis toute petite. Je dessinais beaucoup, je voulais être styliste et puis finalement les choses se sont faites autrement. Et en fait, en dernière année de master, je me suis dit bon, j'ai envie de lancer un projet qui m'est propre. Je voyais plein d'incohérences dans l'industrie de la mode, que ce soit au niveau environnemental, au niveau social. Je me suis dit comment moi, à mon échelle, en tant qu'étudiante, je peux tout reprendre, tout déconstruire et en faire quelque chose de beaucoup plus logique, de faire de cette paire de baskets qui est très polluante, fabriquée en matière très polluante à l'autre bout du monde, un produit beaucoup plus responsable, beaucoup plus engagé, fabriqué à partir de matières locales recyclées et fabriqué en Europe. Donc j'ai intégré un incubateur étudiant et pendant un an, j'ai travaillé sur ce projet-là. Je me suis rendue au Portugal, j'ai rencontré les usines, les partenaires. On a fait le premier prototype, on l'a testé en plein confinement, c'était assez rigolo d'ailleurs. Et ensuite, lorsque tout a été validé, les matières, on a fait tous les tests possibles, on a lancé via une campagne de crowdfunding sur Ulule, donc en septembre 2020. Et ça a vraiment été en effet le début de la marque, le début officiel, puisqu'en quelques heures, on a atteint notre premier palier de 100 paires. 100 paires, c'était l'objectif à atteindre pour lancer la production. C'est ce qu'on avait vu avec l'atelier. Et en fait, en quelques heures, on avait déjà atteint 500 paires prévendues. Donc, ça a été assez incroyable, tout l'engouement qu'il y a eu autour du projet. C'est tombé au bon moment. C'est tombé juste après le premier confinement et juste après cette première prise de conscience. Je ne connaissais rien à la chaussure. On va dire que j'étais passionnée de mode, mais je ne savais pas comment est-ce qu'on construisait une chaussure.
Concevoir une chaussure se fait en plusieurs étapes. La fabrication de la tige, qui désigne le dessus de la chaussure, le montage, qui consiste en l'assemblage de la tige et de la semelle, et puis enfin, la finition.
Donc la première étape, ça a vraiment été de comprendre comment est-ce qu'on façonnait, on assemblait une paire de chaussures. Donc je suis déjà quand même partie avec un bagage en moins, on va dire. Il y a eu plusieurs craintes quand je suis arrivée au Portugal la première fois. Après avoir échangé quelques mails avec différentes usines, je me suis retrouvée à Porto, j'avais 22 ans à l'époque, et je me suis dit, clairement, qu'est-ce que je fais là? J'ai eu un gros moment de crainte parce que je me souviens, j'avais loué une voiture et il fallait que j'aille dans la campagne pour aller visiter la première usine. Je me suis perdue 3 fois sur la route. Je me suis dit, mais ils vont me voir arriver. Ils vont se dire, mais elle a 22 ans, elle est étudiante, ça je ne l'avais pas précisé à l'époque, mais elle ne connaît absolument rien. Donc je me suis dit, je ne vais pas du tout être prise au sérieux. Et il y a aussi le fait que, alors souvent, soit ils sont deux, soit ce sont des hommes. C'est rarement une femme toute seule qui se lance. Donc il y avait cette petite crainte-là aussi, de ne pas être prise au sérieux. Et puis finalement, il y a eu quelque chose de fort qui s'est passé dès la première rencontre avec l'atelier avec lequel je travaille aujourd'hui. Et pourtant, ils ne parlaient pas tous anglais. Pour la plupart, ils parlent uniquement portugais. Mais il y a quelque chose qui s'est créé et cette relation, elle s'est consolidée au fil des mois parce qu'on a traversé beaucoup d'épreuves ensemble, que ce soit la fermeture de l'usine pendant le Covid, les tests ratés des premiers prototypes. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées et qui fait qu'on a créé une relation maintenant très forte. C'est de l'amitié, c'est une relation qui est très forte. Puis forcément, il y en a d'autres, mais voir la première paire de Zeta dans la rue portée par quelqu'un que je connais pas, ça c'est quelque chose qui était un moment qui était très très touchant. Il y en a eu beaucoup. Il y a pas mal d'épreuves, mais en fait, je crois que les épreuves, on les laisse un peu de côté et on retient que les bons moments. On travaille en circuit court.
La notion de circuit court est utilisée pour valoriser un mode de vente limitant le nombre d'intermédiaires, mais ne prévoit pas de notion de proximité physique.
C'est-à-dire que lorsque j'ai fait mon sourcing de matières premières au niveau des fournisseurs, je voulais que ces fournisseurs soient le moins éloignés possible de l'atelier de fabrication. Donc l'atelier de fabrication est au Portugal. On a 90% des matières premières qui viennent du Portugal. Par exemple, le fournisseur de semelles, il est à 10 km de l'usine de fabrication. Donc c'est vraiment, on peut pas faire plus court en termes de circuit. Et on a le cuir de raisin, la matière végétale en raisin, qui vient d'Italie, parce que tout simplement, c'est le seul fournisseur au niveau mondial qui produit cette matière. Donc on n'avait pas forcément le choix à ce niveau-là. Et ensuite, les chaussures sont acheminées à Paris, puisque notre entrepôt est à Paris. On est basé à Bordeaux, mais l'entrepôt est à Paris. C'est plus simple pour expédier à travers l'Europe. La recette est tenue secrète, mais je peux vous expliquer le procédé. Pendant les vendanges, on va récupérer ce qu'on appelle le marc de raisin. Le marc de raisin, c'est tout ce qui va rester lors de l'extraction du jus, donc les résidus, les pépins et les peaux. Elles vont être mises de côté, déshydratées dans des fours, broyées en une fine poudre, puis réintégrées à du PU.
Le PU, qui signifie polyuréthane, est une matière dérivée du plastique.
Ce qui va devenir une matière qui va être solidifiée. On va l'étaler, on va la teindre, et puis ensuite, nous, on viendra la découper et l'assembler sur la chaussure. Lorsqu'on a toutes les matières, on va dire, dans l'usine, dans l'atelier, c'est plusieurs heures pour fabriquer la chaussure. Il y a différents postes. Il y a le poste de découpe, il y a le poste d'assemblage. Ensuite, on vient coudre, on vient coller, on vient solidifier, on rajoute les lacets, on emballe tout ça. Et il faut savoir que nous, l'atelier avec lequel on travaille au Portugal, c'est un atelier familial qui travaille très peu avec des machines. Tout est encore assemblé à la main, de façon artisanale. Donc forcément, ça prend beaucoup plus de temps. Et puis, ce sont une vingtaine de personnes qui travaillent uniquement. Alors que dans certaines usines dans le nord du Portugal, c'est plusieurs centaines de personnes. Donc forcément, ça prend un petit peu plus de temps, mais on a un produit qui est, on va dire, presque artisanal. Il faut savoir que la basket, on va dire que c'est la paire de chaussures qui se vend le plus dans le monde à l'heure actuelle. Il s'en vend plusieurs milliards chaque année. Tout le monde a une paire de baskets dans son dressing. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de m'attaquer à ce produit-là. C'est que je pouvais avoir un impact global. Mais l'idée, c'était surtout de faire réagir et poser la question un petit peu au consommateur en lui disant « Bon, qu'est-ce que tu achètes en achetant une paire de baskets ? Est-ce que tu sais vraiment dans quelles conditions elles sont fabriquées et à partir de quels matériaux ?» Pour la grande majorité des baskets, encore à l'heure actuelle, on va dire 90% de la production, elle se fait encore en Asie, à partir de matières très polluantes comme du cuir, du polyester, des dérivés du pétrole.
Au fil des années, la basket est devenue un symbole incontesté de notre culture et est devenue un véritable objet de mode, voire de culte. Après avoir investi nos vestiaires, attiré l'attention des grandes maisons de mode, des marques de commerce équitable et des collectionneurs, elle fait naturellement son entrée au musée. L'exposition « Sneakers, les baskets entre musées » au balcon des sciences du Musée de l'Homme à Paris met en lumière la montée en puissance de ce phénomène de notre société. Selon les dernières estimations de la Fédération française de la chaussure, le marché mondial de la basket dépasse les 80 milliards d'euros. En France, une paire de chaussures vendues sur deux est une paire de baskets.
L'idée, c'était vraiment de créer un produit qui ait du sens, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on est très transparent sur les réseaux sociaux. On essaie d'en dire le plus possible sur les personnes qui fabriquent les chaussures. C'est important aussi. Maintenant, on achète un vêtement ou on achète une paire de chaussures sans savoir qui les a fabriquées. Et on essaie de donner le plus d'informations possible, puisque ces personnes-là, elles font partie du projet, elles font partie de la marque. Donc l'idée, c'est de redonner du sens à tout ça. Et oui, de déclencher une prise de conscience chez le consommateur. Pour qu'il se tourne vers un achat plus durable, plus conscient, on va dire, plus raisonné. Il faut savoir que le transport routier, ça reste très polluant, même si on essaye vraiment de rassembler le plus de cartons possible à chaque fois qu'on fait un envoi, de grouper les envois pour avoir l'impact carbone le plus faible possible. Mais ça reste polluant. On s'était interrogé un moment sur le transport par voie ferroviaire, par train, mais ça se fait pas, ça se pratique pas encore au Portugal. C'est pas quelque chose de très répandu. Donc on cherche encore. Il y avait une super initiative que j'avais vue il y a quelques mois qui s'appelait Pim Pam Poum ou Pim Pam Post, qui consistait en faire expédier des marchandises dans les soutes des bus. Et je trouvais ça génial, en fait, dans les espaces qui sont vides. Et malheureusement, l'entreprise n'est plus en activité aujourd'hui. Donc on réfléchit encore. Je pense qu'il y a plein de choses encore qui peuvent être mises en place pour réduire l'impact, mais c'est encore en cours de réflexion.
En fait, on travaille soit en précommande, soit avec du stock. Ça dépend si on est en lancement de collection, on va faire de la précommande pour voir si ça va fonctionner et pour pas commander un stock énorme d'un coup et avoir trop de produits. Le but, c'est de ne pas reproduire ce schéma de la surproduction. Donc, soit on est sur de la précommande, soit on est sur du stock. Mais c'est vrai qu'on a des collections qui sont assez limitées. C'est aussi voulu. Le marc de raisin, il est déshydraté. Donc, à partir de ce moment-là, il peut être stocké pendant plusieurs années. Et là, on a un stock suffisant pour plusieurs collections. Il y a comme une prise de conscience, il y a une vraie sensibilisation, surtout durant la période Covid, en fait, où les personnes ont commencé à s'intéresser davantage à l'environnement, à la transition écologique, à l'impact. On a commencé à reconsommer en circuit court, à faire davantage attention à nos achats. Donc, il y a une petite prise de conscience qui s'est faite à ce moment-là. Après, il y a un travail de sensibilisation qu'il faut faire tous les jours. C'est un travail quotidien. Parce qu'aussi, il faut le dire, il y a la valeur du prix. Acheter responsable, consommer mieux, ça coûte plus cher. Ce qu'il faut essayer de faire comprendre aux gens, c'est que un achat durable va pas forcément coûter plus cher. C'est-à-dire que si on achète une robe à 20 euros chez H&M qui a été fabriquée à partir de coton au Bangladesh, et si on achète une robe qui coûte un peu plus cher, qui est fabriquée en Europe à partir de matières recyclées, il y en a peut-être une sur les deux qui va durer plus longtemps. Donc c'est aussi toute cette... Il y a une éducation à faire à ce niveau-là. Ça prend du temps, mais pas à pas, je pense qu'on est sur la bonne voie. On a eu dernièrement quelques messages de personnes qui me disaient « Mais moi, je suis une fan de Nike et d'Adidas, je ne porte que ça. » Et en fait, maintenant, je suis passée à Zeta. On se dit « Mais voilà, là, c'est gagné à ce niveau-là, c'est super. »
Je suis Marie-Maxime Dricot. C'était Aujourd'hui Demain, un podcast du Red Bulletin, réalisé avec l'aide de Jérôme Caron. Merci de l'avoir écouté. Et si ce programme vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager.